Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Marc chapitre 7, et nous allons faire cette lecture donc à partir du verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, Jésus lui dit : Écoutez-moi, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit : Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient les aliments. Il dit encore que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà, nous allons nous livrer à une réflexion qui a une valeur morale. C'est ce que Jésus nous dit, hein, c'est ce qu'il nous laisse entendre. Et nous allons donc nous mettre à l'écoute de ce que Jésus enseignait hier à ses disciples. Et ça vaut naturellement également pour nous. Dans ce sens que Jésus va interpeller cette foule qui se presse autour de lui. Et il va leur dire tout simplement, écoutez-moi, mais non seulement d'écouter, mais comprenez ce que je dis. Parce qu'on peut écouter, forcément, mais cela n'est pas forcément suivi, d'une compréhension. Alors, je vais me livrer cet après-midi à un sujet, sur une explication d'un phénomène que les hommes ont du mal. Ça reste mystérieux, bien qu'ils sachent pertinemment de quoi il s'agit, mais ils n'en connaissent pas ni les tenants, ni les aboutissants. Le sujet que j'aimerais justement voir avec vous est ponctué l'insistance de Jésus, mais vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Ou en tous les cas, vous faites un effort pour comprendre. Et vous savez, si on entend ce que l'on entend de ce que Jésus nous enseigne et qu'on le comprend, les hommes vont se convertir, parce que ça ne peut pas être autrement. Ou alors, si on ne répond pas, si on n'a pas tout simplement une réponse à donner à ce que nous avons entendu et compris, c'est que nous ne voulons pas. Mais il y a malheureusement beaucoup de gens autour de nous qui ont bien compris ce que ça veut dire, mais qui ne changeront pas un iota de leur vie parce que ça les dérange, ça les embarrasse. Et cette valeur morale que j'aimerais justement, c'est tout simplement la notion du péché, la notion du mal. Alors il est partout. Il est omniprésent dans le monde dans lequel nous vivons, et il semblerait que les hommes s'y sentent comme des poissons dans l'eau. C'est-à-dire que, quelque part, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ils connaissent bien cette opposition qu'il y a entre le mal et le bien, entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, tout ça, tout le monde le sait. Mais, comme Jésus le dira dans l'évangile de Jean, il dira « Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière » pour une raison tout à fait particulière, parce que ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils croient, ce qu'ils sont en réalité, à cette raison d'être, c'est qu'ils ne veulent pas changer, c'est qu'ils préfèrent encore les ténèbres à la lumière. Alors, je voudrais brièvement parler de ces valeurs morales, de ce que Jésus nous enseigne. D'abord, qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis, également, pourquoi donc ça nous amène à ses origines ? Les origines. Je ne veux pas faire un grand discours parce qu'il suffit tout simplement d'ouvrir et de compulser les premières pages de notre Bible et nous allons avoir la réponse. Et malgré que les choses sont inscrites dans la conscience humaine, alors beaucoup tournent la page en disant « Eh bien, ça ne nous concerne pas, ça nous dérange, ça, eh bien, ça ne, ce n'est pas bon pour que nous allions un petit peu plus loin dans cette réflexion. » Mais quand il s'agit des conséquences, alors, quelquefois, eh bien, nous sommes bien confrontés, nous sommes souvent confrontés avec ce genre de choses, et les conséquences, eh bien, il faut bien les assumer, mais toujours en fuyant, c'est-à-dire en essayant de trouver des prétextes ou échappatoires ou des excuses. Et puis, la Bible nous dit aussi que devant cette situation inéluctable, il y a forcément, eh bien, naturellement par-delà les conséquences, un remède et une solution, puisque c'est un mal, et quand on est malade, eh bien, on va chez le médecin, et il va diagnostiquer. Et par-delà le diagnostic, il va nous donner des médicaments, des remèdes appropriés qui conviennent. Tout à fait, dans la mesure où celui qui a consulté entend, comprend et fait confiance au médecin et à sa prescription, et qu'ensuite, il croit ce qui lui a été dit, et qu'il obéisse, c'est-à-dire qu'il va chez le pharmacien, et puis il va, eh bien, s'administrer les médicaments prescrits. S'il veut voir naturellement la guérison. C'est toujours la question est là. Et puis, dans cela, eh bien, la Bible nous parle de la part de Dieu. Elle est entière, elle est complète, elle est parfaite, cette part de Dieu. Et puis, il y a la part de l'homme. Elle est très simple. Elle est d'une simplicité enfantine, mais peut-être que justement est-elle si simple que les hommes renoncent à se l'appliquer en disant, mais c'est si simple, ça ne peut pas être ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il y a naturellement, eh bien, par-delà tout cela, la destination. Alors, le propos que je vais tenir, naturellement, il est basé sur cette réflexion que Jésus donnait à ses compatriotes. Et il dira, il parlera de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, il ajoute, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, ne puisse le souiller. Et il parlera que, dans le contraire, eh bien, ce qui vient et le mal qui vient, il vient de l'intérieur de l'homme. Et c'est ce qui le souille. Et Jésus ajoutera ces paroles, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il entende, hein, attention. » Parce que ça passe par l'audition, on revient toujours à ce que Jésus nous disait, « Entendez et comprenez. » Alors on va essayer de se mettre à la compréhension des choses et vous dire que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu pour tout cela. Alors quand il s'agit du péché, c'est une évocation désagréable, embarrassante, qui fait rougir. Parce qu'il y a toujours naturellement derrière, eh bien, ce sentiment de culpabilité. Quand on fait le bien, on est en paix, on est en repos, on est serein. On sait le faire, ça. On fait ce qui est normal de faire. Et la normalité pour Dieu, c'est de faire le bien. La normalité, c'est de faire le mal. Bien souvent, eh bien, c'est le contraire chez les hommes. Et ils se mettent dans des situations où ils vivent très très mal. Ce sentiment intérieur, cette voix de la conscience, eh bien, qui les accuse. On sait très bien quand on ment. Remarquez, vous savez qu'habitude, les gens, les vrais menteurs, les menteurs chevronnés, vous savez ceux qui mentent comme ils respirent, ben, ils finissent. À un moment donné, ils sont prêts à leur propre piège, parce que quelque part, à force de crier au feu, personne ne va éteindre l'incendie, vous comprenez? C'est-à-dire que ils finissent par être complètement convaincus que les mensonges qu'ils tiennent, ou le mensonge qu'ils tiennent, c'est la vérité. Et c'est là où, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que c'est une maladie, nous pourrions dire, incurable. Alors, je disais tout à l'heure, c'est une évocation très désagréable. Hein, quand on est confronté entre ces deux pôles, vérité, mensonge, et... Les hommes ont trouvé souvent cette solution de l'ignorer. C'est-à-dire que leur conscience, ou cette voix qui parle au fond d'eux-mêmes, dans le tréfond de leur âme, ils se sont dit, bien voilà, faisons comme tout le monde, parce que la norme, ça doit être la majorité. Et vous savez, dans le monde dans lequel on est, hein, c'est la majorité qui remporte toujours, hein, même si elle a tort. Même si elle est dans l'erreur, on le voit, hein, très très souvent. Quand, au moment où Jésus a été crucifié, alors qu'il y en avait très très peu qui étaient là pour le défendre, hein. Il n'y en avait plus beaucoup. Même parmi ses disciples, tout le monde avait fui. Mais comme on criait, et pourtant, dans un premier temps, Pilate s'est fait le défenseur de Jésus. Il dira, mais quel mal cet homme a-t-il fait? Je ne trouve en lui rien de coupable, alors je vais le libérer. Et puis alors, à un moment donné, parce que ça c'est le problème hein, du groupe, du mouvement de foule, tout le monde s'est mis à crier « Tu le crucifies, tu le crucifies !» Même s'il y en avait un autre qui était à côté, qui s'appelait Barabbas, et qui lui, finalement, eh bien, méritait d'être bien condamné à mort, puisque c'était un criminel de sang. Alors, beaucoup de gens préfèrent ignorer, et à force de se convaincre que ce qu'ils font c'est mal, eh bien, ils tombent dans une certaine no man's land, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne, c'est-à-dire que on a relativisé le mal, et le mal n'est plus appelé mal, on peut l'appeler bien, pourquoi pas. C'est une conception et en quelque sorte une gymnastique à la fois intellectuelle, cérébrale et une gymnastique morale. Et certains disent, eh bien, aujourd'hui, et on le voit très fréquemment, on a renversé les choses et ce qui est appelé mal, on l'a décrété même par force de loi, on l'a décrété bien. Voilà, c'est comme ça. Alors donc, une attitude. Et les hommes se sont donné naturellement eh bien, tout l'art du camouflage, ou du maquillage, on peut dire tout cela, en l'appelant autrement. C'est-à-dire que le mot « péché », c'est un mot qui est de moins en moins usité dans notre monde. Hein. Alors on va dire « défaut de caractère, de tempérament, hérédité », enfin bon voilà, hein, des choses qui sont des... On a, en quelque sorte, on a diminué... On a entamé le sens profond et véritable. Et moi, j'aimerais justement, devant cet universel cauchemar, parce que quand même, le résultat de tout ça, ce sont les cimetières autour de nous. Hein. Le résultat de tout ça, ce sont les cimetières. Vous comprenez ce que j'avais dit ? Ce sont les accidents. Ce sont les meurtres. Ce sont toutes ces choses que nous avons lues dans le propos de Jésus, en disant, mais la magie, la débauche, le vol, les crimes, etc., etc. Mais c'est ça. Alors, on peut toujours mettre des mots de camouflage, on peut toujours édulcorer le sens. Et cet après-midi, j'aimerais redonner le sens, comme la Bible nous en parle. Et je vais vous donner quelques significations pour que nous comprenions bien que ce n'est pas une petite affaire. Le mot péché vient du latin faillita. Ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire faillite. Faillir, manquer, comme vous le savez, manquer le but. Un arc muni d'une flèche tirée sur une cible et qui n'atteint pas la cible. Voilà, on peut le dire, vous l'avez souvent entendu par de nombreux prédicateurs, mais c'est ça, faillite. J'ai fait faillite. Je me suis lancé dans une entreprise et je me suis aperçu que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a eu telles et telles circonstances. Il y a toujours des circonstances pour tirer à côté de la cible et manquer le but. Il y aura toujours des choses. Des choses qui pourront être quelquefois indépendantes de nous-mêmes, mais quelquefois qui sont, eh bien, véritablement notre fait. C'est une faillite à l'égard du premier devoir que l'homme, créature de Dieu, doit à son créateur, c'est-à-dire lui obéir. Parce que quand vous parlez de péché, il y a le mot obéissance dedans. Voilà. C'est quelque chose qui a été donné dès l'abord dans la faillite humaine, dans cette catastrophe au sortir du jardin d'Éden, et qui est rappelé, eh bien, là, dans les 10 commandements d'une manière très sommaire, et qui va beaucoup plus loin que ces 10 phrases qui se suivent les unes après les autres, mais qui va beaucoup plus loin qu'on le pense, et peut-être que nous aurons l'occasion de voir dans le détail. Eh bien, une prolongation de ce que nous disons dans le contexte même donné à Moïse de ce que veut dire finalement, eh bien, cette instruction de Dieu pour que les hommes ne manquent pas le but. Alors donc voilà, faillite, faillita. Le mot désobéissance maintenant trouve sa racine dans audire, c'est-à-dire entendre. C'est pour ça que nous avons choisi ce texte. Quand Jésus nous dit « entendez », mais ne vous contentez pas d'entendre, comprenez ce qu'il y a derrière. Parce que, depuis que le monde est monde, les dénonciations du mal sur cette terre, et quelquefois en dehors des croyants, même des chrétiens, ça se fait. La loi des hommes, elle dénonce le mal. Le code civil, hein, et puis tout ce que nous avons dans n'importe quel pays du monde, eh bien c'est une dénonciation. Il y a des choses à faire et des choses qui ne sont pas à faire. Il y a des choses qui portent atteinte à la fois à la société, à la nation, qui portent atteinte à notre prochain surtout, mais qui portent atteinte aussi à Dieu. Mais sans oublier que ça va nous porter atteinte en priorité. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est comme un boomerang, vous comprenez. Il est lancé, mais il revient. Mais ça revient pas au même moment, ou ça vient pas simultanément au moment où nous l'avons lancé. C'est ça ce qui fait perdre un petit peu la trace, en disant, ben oui, naturellement, ceci, cela, mais je ne me souviens pas qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Et puis, ça, c'est une loi de la nature. C'est une loi des divines, nous pourrions dire, qu'un boomerang qui est lancé, il revient. Alors, ça veut dire entendre, c'est écouter pour mettre en pratique. C'est écouter pour exécuter précisément, et c'est un manquement après avoir reçu la connaissance, les gens qui n'ont pas de connaissance, qui ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche, comme du temps de Ninive. Vous savez, Jonas, vous en souvenez, hein? Et pourtant, ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Dieu dira à Jonas, qui était en colère parce que Dieu lui avait fait grâce à la ville, il lui dira, mais ces pauvres gens, ils ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, hein? Alors, Dieu avait choisi de leur faire grâce, c'est-à-dire de les sauver du cataclysme qui allait venir sur eux. Et après avoir reçu la connaissance, donc le péché, de ce qu'est le péché, eh bien nous voyons que c'est considéré comme une transgression à la volonté de Dieu, et transgresser, ça veut dire passer outre. Je sais, et malgré que je sais les choses, eh bien, je fais un peu comme, vous savez, le sacrificateur ou le lévite, c'est curieux que ça soit tombé sur eux, hein, mais qui, devant une nécessité d'appliquer la charité, a jeté un coup d'œil et s'est même pas arrêté un instant pour apporter, finalement, eh bien, les premiers soins à ce samaritain qui était tombé sur le bord de la route. Eh bien, c'est exactement la même chose. Là, j'ai pris une image que Jésus nous laisse à travers une parabole, mais c'est exactement la même chose. En sachant les choses, de dire, eh bien, je continue ma route parce que ça ne me concerne pas, ou ça ne m'intéresse pas, ou je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Donc, il y a cette signification et que nous pouvons donner, passer outre, tout simplement. Et vous allez reconnaître, c'est aussi une contravention. Vous savez ce que c'est qu'une contravention? Non? Vous savez pas? Ben, vous savez, il y a des radars, vous passez à... Enfin, moi, après tout, j'en prends pas la responsabilité, c'est vous, hein. Mais c'est ça, une contravention. Contrevenir à quelque chose qui, finalement, eh bien, est une interdiction, ou en tous les cas, eh bien, quelque chose qui doit nous amener à respecter. Et une contravention, ça a pour sens, tout simplement, marcher à l'encontre d'eux. C'est-à-dire qu'il y a un impératif, et cet impératif ou un interdit, ça ne m'intéresse pas, je vais au-delà. Enfin, la Bible nous dit que le péché est un état. C'est un état de rébellion contre Dieu. Nous lisons ces mots, qui sont assez forts, sous la plume de l'apôtre Paul dans ses épîtres, en disant « Mais le monde entier est en rébellion contre Dieu. » Le sachant ou non, mais en tous les cas, il se rebelle. Et quelquefois, les plus rebelles, ce ne sont pas ceux qui en donnent véritablement les manifestations. Et... à travers cela, eh bien, naturellement, c'est tout un ensemble de choses qui se met en route. Contrevenir, rébellion. Le mot latin bellium veut dire tout simplement, veut dire guerre. Et vous connaissez le mot qui a été traduit en français, belligérance. Les belligérants, ce sont des ennemis. Pendant des siècles et des siècles, les Allemands et les Français ont été belligérants, hein. Avant, c'était les Anglais, ça durait 100 ans et plus, hein. Mais toujours est-il que c'est ça. Le mot bellium, guerre. Vous comprenez que derrière le mot péché, il y a tout un ensemble de significations qui s'enchaînent et qui dégénèrent finalement en révolte, en conflit, en rébellion, en combat, en lutte, où il n'y a plus, où c'est l'absence totale de paix, d'amour. Les choses sont remplacées par la haine. Comme nous l'avons chanté dans ce cantique tout à l'heure, où il était question, justement, eh bien, des antagonistes, hein. Il y avait les deux, hein, dans le cantique que nous avons vu il y a un instant. Eh bien, c'est ça, justement, précisément. Et on comprend que la nature même de notre monde, de notre société, qui n'est pas une société paisible, ou même à haut niveau, je veux dire, au niveau des pouvoirs, au niveau des États, on sent que c'est un conflit permanent avec des guerres. Alors si elle n'est pas avec des chars et des canons, elle est économique, elle est sociale. C'est un conflit permanent où véritablement il y a des chocs et des heurts entre les opposants. C'est notre monde. On se désole. quand nous écoutons les informations visuelles ou celles que nous entendons tout simplement par les médias, on se dit mais c'est terrible. Et on n'est pas les seuls, nous les chrétiens, à constater les choses. Il y a des gens du monde bien pensants et des gens qui ont quand même aussi un sens moral et qui s'inquiètent pour le devenir de notre monde. Parce que depuis que le monde est monde, on s'aperçoit que ça n'a toujours été que ça. Le terreau sur lequel se développe et s'est développée l'humanité dans ses premiers jours jusqu'à maintenant, c'est un terreau qui a été arrosé par le sang. Ce n'est pas un consensus de paix, ou alors une coexistence qu'on appellera pacifique, parce qu'on ne peut pas faire autrement compte tenu des grandes menaces qui ont été ouvertes par les armes nucléaires. Aujourd'hui, on se dit, on peut toujours envoyer une bombe nucléaire sur un pays, mais on va en avoir le retour, ou la guerre bactériologique, parce que tout cela, c'est une affaire qui va toucher tout le monde. Alors donc, il y a comme une suspension, mais le cœur de l'homme reste toujours en guerre, il reste toujours en contradiction. Et on pourrait peut-être se poser la question, il y a des gens qui s'interrogent et qui se disent « Mais pourquoi le monde est ainsi ?» La Bible nous répond, l'apôtre Paul en fait vraiment un diagnostic et nous dire « Mais voilà, parce que les hommes sont ceci et dans les derniers temps, ils seront égoïstes, ils seront amis de l'argent, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents, etc. » Et vous avez toute la panoplie qui est là. Vous avez remarqué avec moi, quand il est dit à un moment donné, c'est du dedans, du cœur de l'homme. Voilà, parce qu'il a... Le cœur de l'homme a recueilli quelque chose. Il a couvé quelque chose. C'est comme quand on couve des œufs, vous savez, de vipères. Et là, à un moment donné, il a trouvé, finalement, dans ce cœur, le péché a trouvé sa raison de pouvoir prospérer et se développer. Il nous a dit, mais de ce cœur sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, je le relis, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Et vous savez sur quoi ça se termine? La folie. Est-ce que vous avez remarqué que ça se termine sur la folie? Les hommes sont fous. Ils sont fous pour la bonne raison et à défaut d'avoir opté pour son contraire, la sagesse. Et la sagesse, elle vient de Dieu. Et à vouloir entendre sans comprendre, ou à refuser de comprendre, le monde est un monde morbide. C'est un monde qui est fait de sang, qui est fait de conflits, qui est fait... d'opposition par intérêt, c'est tout. Et vous y mettez en milieu l'égoïsme humain. Vous y mettez l'orgueil. Vous y mettez le nationalisme. Vous y mettez la religion fanatique. Et vous y mettez tout cela et vous avez l'ingrédient d'une explosion mondiale. Ça viendra. C'est déjà venu. Dans des proportions peut-être locales ou localisées, comme vous voulez. Mais la Bible nous parle, et surtout particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, que nous arrivons bientôt dans les temps où ça sera généralisé. Alors quel homme sera suffisant? Quel homme pourra apporter finalement la réponse? Aucun. Aucun. Même le plus sage, même le plus intelligent, même le plus diplomate, même le plus consensuel n'y arrivera pas. Et pourtant, cet homme-là, il est déjà venu. Et vous savez ce que les hommes en ont fait? Eh bien, ils lui ont fait, tout simplement, ils lui ont appliqué le produit de leur cœur, c'est-à-dire le fruit de leur cœur, c'était de mettre à mort. L'humanité, c'est Caïn. Vous savez ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire de Caïn. Premier meurtre de l'humanité. Et depuis, il y a toujours eu du sang sur la terre. La terre n'a pas été abreuvée qu'avec de l'eau du ciel, mais elle est abreuvée par du sang. Et il y a des peuples, il y a des régions, il y a des contrées où vous pouvez dire, c'est véritablement le sang des hommes. On les appelle des champs de bataille, vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, c'est le péché. D'une manière ou d'une autre, que nous le prenions sous un aspect de violence, ou que nous le prenions sous un aspect de violence et de souffrance, ou que nous le prenions sous un aspect de plaisir et de jouissance, c'est toujours la même chose. Ah, bien sûr que quand on regarde par l'aspect jouisseur ou jouissance, apparemment, ça fait pas de mal. Ça ne peut laisser qu'une impression de se faire du bien. Je dis bien de se faire du bien un soir, tout en faisant du mal aux autres. Mais c'est les deux leviers dont le diable se sert pour conduire le monde. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un habitat favorable, un habitat de consentement chez l'homme. Et quand nous lisons, par exemple, le psaume 10, me semble-t-il, et que nous relisons exactement les paroles qui sont prises en ce qui concerne, dans le Nouveau Testament, je crois que c'est Paul, qui dira, mais pas un seul n'est bien, pas un seul n'est intelligent, pas un seul n'est pur, pas un seul n'est saint. Personne. Donc, devant une humanité perdue, une humanité qui va à la mort, il fallait bien trouver une solution. C'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, cette belligérance, cette guerre permanente, cette opposition, ces disputes, ces querelles, eh bien, tout cela, Dieu a considéré les choses, et dès la première faute, il y avait déjà l'apparition d'un plan de salut. C'est formidable, hein? Un plan de salut. Et c'est ce plan de salut que l'Évangile se propose de faire connaître au monde. Et croyez bien que le monde s'y presse pas, parce qu'aujourd'hui, il y aurait du monde dans cette salle. Hein. Et je crois que partout dans les villes où il y a la prédication de l'Évangile, on devrait pouvoir rallier des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes. On est loin du compte. Hein. Parce que quand on voit que quel ressenti les gens peuvent-ils avoir lorsque l'on parle de Jésus, de la Bible, de l'Évangile, c'est bien pour les autres, mais c'est pas bien pour eux. Voire peut-être même déclencher des violences ou des moqueries. Pour le moins. Parce que les gens n'en veulent pas, tout simplement. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus le dira d'une manière tout à fait particulière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais on peut toujours changer de comportement et changer de manière d'être, de manière de penser. Et c'est précisément ce que les gens ne veulent pas. Comme s'ils caressaient leur péché mignon. C'est ce que l'on dit, hein. Parce que, quelque part, ça fait tellement partie de leur vie, de leur vie intégrante, qu'ils se disent, mais si je ne suis plus moi-même, je suis perdu. Et justement, c'est précisément le contraire qui est proposé. C'est que, quelque part, ils arrivent à se défaire de cette personnalité mauvaise, de ces pensées mauvaises, de ce mauvais cœur, pour être débarrassés, purifiés, c'est ce qu'on appelle la sanctification ou la régénération, pour que Dieu vienne à l'intérieur et que là, eh bien, nous puissions être changés et complètement transformés en passant par une expérience, par deux expériences, par trois expériences. La première, c'est la repentance. La deuxième, c'est tout simplement se convertir, c'est-à-dire abandonner ce que nous sommes pour devenir comme Jésus. Ça s'appelle la conversion à Christ et non à une religion. Et puis la troisième chose, eh bien ça c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre, nous pourrions dire, par-delà tout ce que nous pouvons concevoir, c'est-à-dire c'est la nouvelle naissance qui fait de nous eh bien que nous devenons des nouvelles créatures. Et alors, à ce moment-là, ce n'est plus la place qui revient au mal à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'est la place qui est donnée à Jésus. Ça nous a été dit ce matin, si vous vous en rappelez, quand il a été dit ceci, ça c'était la pensée profonde de Jean-Baptiste, quand il a dit ceci, « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Plus nous laisserons Jésus prendre la place dans notre vie, moins il y aura de place pour le mal. C'est logique, hein? Parce que Jésus, c'est le bien. Parce que Jésus, c'est la vie. Il chasse la mort. Puisque Jésus, c'est la vérité, il va chasser l'erreur. Puisque Jésus, c'est la lumière, il va chasser les ténèbres. Et puis, ainsi de suite, hein, toutes ces conceptions que nous pouvons, et qui sont opposées les unes aux autres, eh bien, nous les avons. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans l'Épître aux Romains? Simplement, brièvement, dans Romains, au chapitre 5 et au verset 10, nous allons simplement découvrir ce texte. Qu'est-ce qu'il nous est dit, ce verset particulièrement? Il nous est dit lorsque nous étions ennemis. Il n'est pas dit si nous avions été par hasard ennemis de Dieu. Mais il est bien affirmé lorsque nous étions ennemis. Donc il y avait un état préalable. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Voilà. Vous vous rendez compte que même dans cette situation d'égarement profond, étranger à la vie de Dieu, dans cet esprit d'animosité, eh bien, nous avons été déjà réconciliés. Prenez compte, les choses ont été faites, c'est nous de les accepter, tout simplement. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est impossible de se convertir. Peut-être que les gens admirent ceux qui se convertissent, mais c'est leur part à eux. C'est une décision personnelle, autrement, eh bien. Alors, nous avons été réconciliés. Et si nous avons été réconciliés, serons-nous à plus forte raison sauvés par la vie de Christ, puisque quelqu'un est mort à notre place pour que nous vivions. Ça, il faut que nous puissions nous en imprégner de tout cela. Alors, tout ce que nous faisons est le produit, ou tout ce que nous disons est le produit de ce que nous sommes. De quelle nature sommes-nous? Quel est notre maître? quelle est notre inspiration et notre inspirateur? On le sait, les chrétiens le savent ça, parce qu'on est passé d'un état à un autre, on est passé d'une vie à une autre vie, bien que ça n'a rien changé à la couleur de nos yeux et à la couleur de nos cheveux et de ce que nous sommes. Par contre, à l'intérieur de notre cœur, ça a tout changé. Et nous sommes devenus des êtres nouveaux. Ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, doit être en rapport avec et sera l'inspirateur de ce que nous dirons et de ce que nous ferons. C'est le fruit, tout simplement. Ce n'est pas des œuvres, mais c'est le fruit. Et Jésus prendra soin dans le sermon sur la montagne de nous donner cette leçon d'identification, de reconnaître un arbre à son fruit. Le jour où vous verrez des pommes sur un bananier, il y a quand même une anomalie, hein, parce que un pommier donne des pommes normalement, hein, j'espère, hein, mais c'est comme ça. Et Jésus dira bien, attendez, vous regardez. Et je crois que à travers ce changement, si nous sommes dans la nature de Christ et que la nature de Christ, eh bien, nous l'avons au fond de nous-mêmes, nous allons être comme Christ. Enfin, toute proportion gardée, mais je veux dire, nous allons penser comme Christ, nous allons avoir ses pensées, nous allons avoir ses sentiments, nous allons avoir son cœur, donc des actes d'amour. Nous allons avoir toutes les caractéristiques. Et c'est ça ce qui fait reconnaître un chrétien d'un faux chrétien. Parce que le faux chrétien peut toujours se targuer de dire des choses, il peut en connaître même plus que nous. Mais il sera mesuré finalement avec ce qu'il est et ce qu'il produira. Si l'arbre est bon, il produira de bons fruits. S'il est mauvais, il produira de mauvais fruits. Et c'est vrai pour tout le monde, hein. C'est vrai pour tous les hommes. Alors, ce que nous faisons parle pour ou contre Dieu. C'est à identifier. Or, l'important n'est pas d'avoir les mains levées, mais un cœur pur. C'est pas la gestuelle qui va compter pour Dieu. Ce n'est pas les formules ou ce n'est pas, comment pourrions dire, la pratique religieuse. Avec tout ce que cela peut finalement, entraîner, comme on l'apprend aux hommes, comme on l'apprend aux petits des hommes, déjà tout petits dans une culture religieuse. Bien qu'il y ait quelquefois des principes universels de bien et de mal, c'est vrai. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a quelque chose qui va beaucoup plus au-delà de ça. D'ailleurs, si vous considérez, et je vous donne à le lire si vous voulez quand vous rentrerez chez vous, dans les débuts de Marc 7, le chapitre, il nous est parlé du formalisme religieux. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ce formalisme religieux? Eh bien, ça veut dire tout simplement que Jésus a fait front à tous ces gens de son temps, de son époque, qui étaient les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, avec quelque part... Eh bien, un abîme qui séparait Jésus et de l'esprit de l'évangile avec ces gens qui se réclamaient certainement d'une belle religion que l'on appelle le judaïsme et qui en avait dénaturé tout à fait le sens. Et Jésus va être beaucoup plus sévère avec tous ces gens de la religion officielle qu'avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. C'est ce que nous constatons. Donc, ce formalisme religieux, on en parle. Et nous nous apercevons que ce qui est important, c'est d'avoir un cœur purifié. Ouais. Et le Seigneur est venu justement pour purifier notre cœur. Parce que du cœur, la bouche parle, nous dit Jésus dans Matthieu, chapitre 12. Eh oui, quelquefois les gens ont une façade, ils nous font des sourires, puis derrière, bien, ils sont médisants, ils sont critiques, hein, ils vous font du mal, et on sait que ce mal-là, il peut être encore plus redoutable que n'importe quelle guerre ouverte, ou arme blanche, ou arme à feu, si vous voulez. Alors, Jésus nous explique bien que ce qui souille l'homme ne vient pas de la bouche, bien que de cette bouche il y a quelque chose de beaucoup plus profond, mais c'est ce qui pénètre de l'extérieur par les oreilles, par les yeux, et qui rejoint le cœur, et qui met ce cœur dans un état de convoitise. Jacques en parle de la convoitise, et cet état de convoitise pour le mal, parce que ça ne va que pour le mal naturellement, qui fait que ce mal va adhérer à notre cœur, parce qu'il va y trouver un terrain favorable. Il s'y incruste, et il le salit, mais il va y rester. Donc il faut un nettoyage. Vous connaissez aussi cette autre parabole où Jésus nous parle de la maison qui est ornée, balayée, ornée par le message de l'Évangile, par l'Esprit de Dieu que l'on invite à venir en nous, et qui va faire une œuvre extraordinaire. Mais après avoir entendu l'Évangile, si nous n'invitons pas le Saint-Esprit à rester, alors à ce moment-là, eh bien, ça restera vacant, vous comprenez? Il n'y aura pas de locataire, mais il y en aura un tôt ou tard qui va revenir. Et il est nécessaire absolument, à ce moment-là, lorsque nous avons été en présence de la parole de Jésus, libératrice, purificatrice, qui nous sauve, eh bien, de dire au Seigneur, reste avec nous, le soir vient maintenant. Tu restes avec nous, parce que le monde devient de plus en plus mal, hein, le mal s'appesantit sur la terre, alors reste en moi, reste en nous, parce que sans toi, je ne pourrais rien faire. Et c'est vrai que Jésus a bien raison de dire que dans le domaine moral, dans le domaine de tout ce que nous pouvons faire comme effort pour être bien, pour faire le bien, si Jésus n'est pas là, eh ben, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est pas la loi qui sauve, c'est la grâce. C'est tout simplement, eh bien, ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Je voudrais le dire et le redire encore une fois, c'est que le péché n'est pas une maladie de peau. C'est une maladie de cœur. Alors vous pouvez toujours aller voir un cardiologue en disant, voilà, il va pas comprendre. Hein. Il va pas comprendre. Parce que je vous dis ça, pourquoi une maladie de peau? Parce que quand vous lisez ce que les pharisiens étaient venus dire, justement au chapitre 7 et au verset 1er, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assirent en disant, mais pourquoi tes disciples ne se lavent-ils pas les mains avant de se mettre à table? Scandale. Quelle hygiène! Quel manque d'hygiène! Et Jésus va retourner, c'est pour ça que ce texte a été écrit que nous méditons, pour dire, vous les pharisiens, vous allez au temple 3 fois par jour, vous donnez la dîme, vous donnez vos offrandes, vous faites ceci, vous faites cela, et vous le faites d'une manière ostentatoire pour que tout le monde sache, pour que tout le monde, que le monde entier sache que vous êtes des hommes au-dessus d'eux, hein, au-dessus des autres, moralement et spirituellement, vous êtes les meilleurs et les plus beaux. C'est pour ça que Jésus, et c'est pour ça que j'affirme que quelque part, le péché, c'est pas une maladie de peau. Vous pouvez bien vous laver les mains 1000 fois par jour. C'est une maladie de cœur. Et le cœur, on peut se laver les mains. On peut le faire nous-mêmes. Mais laver votre cœur, c'est autre chose. Hein. Parce qu'à partir du moment où vous le sortez, vous le mettez dans le lavabo, vous ne vivez plus. Hein. Ça, c'est pas possible. Il n'y en a qu'un qui peut aller au fond de notre cœur et qui nous connaît bien avant que nous nous connaissions nous-mêmes. Ça, c'est clair. Maladie de cœur. Et pourtant, il y a une belle espérance dans l'Évangile. Parce que moi, quand je prêche, je donne toujours quelque chose de positif. Enfin, en tous les cas, je le veux. Je le souhaite, je le désire. Pour que les auditeurs puissent dire, quand ils sortent d'une salle de réunion où ils ont entendu l'Évangile, ils sont quelquefois venus malades, accablés, culpabilisés. Ils ont des problèmes de tous les côtés, comme nous pouvons le comprendre. Et qu'ils puissent dire, aujourd'hui, j'ai entendu un message, qui est un message d'espoir, un message d'espérance. Il y a donc un espoir pour moi. Et cet espoir, il s'appelle Jésus. C'est pour ça que l'évangile en grec, ça s'appelle bonne nouvelle. Enfin, évangile, bonne nouvelle. Parce qu'on ne peut pas se permettre, comme un médecin ne le ferait jamais, de dire, eh bien, écoutez, monsieur, madame, j'ai bien observé, je vous ai ausculté, j'ai bien vu, vous avez un cancer au foie, vous avez un cancer au cerveau, vous avez ceci, vous avez cela. Je m'arrête là parce qu'il y a au moins une dizaine ou une vingtaine de maladies. Pensez que vous ressortez avec le moral pour ça. Hein. Et que le médecin, s'il vous dit, mais vous êtes incurable, je peux rien pour vous, ben, vous savez, vous tuez deux fois la personne. Mais si vous avez entendu le diagnostic en disant « mais nous allons faire quelque chose pour vous parce qu'il y a une réponse », je pense sur le plan humain, médical naturellement, mais si vous le reportez sur le plan spirituel, eh bien c'est ça, nous sommes des prescripteurs d'une ordonnance qui est une ordonnance d'espérance, d'espoir, pour que les gens puissent avoir un avenir, pour qu'ils puissent dire « eh bien voilà, j'étais malade à mourir, mais il y a un espoir, je vais vivre ». C'est ça le message de l'Évangile. C'est extraordinaire. Et cette parole, c'est Dieu qui la prononce. Et il dira ceci par un des prophètes dont j'ai oublié le nom, mais bon, peu importe. Un homme inspiré de Dieu, il dira, mais si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et oui, c'est beau, hein. Vous avez vu la neige? Non, on n'a pas vu beaucoup cette année, hein. Alors qu'il y en a qui ne leur passent au-dessus de la tête, hein. Ouais. Ils seront blancs comme la neige. Et vous savez, cette blancheur immaculée, cette blancheur céleste, vous savez comment on l'obtient? Ça, c'est encore un paradoxe. Hein. Parce que, mesdames, quand vous faites la lessive, quand vous faites le linge, vous mettez une lessive dedans. Alors, vous avez naturellement des lessives qui sont meilleures les unes que les autres. Hein. Plus blanc. Hein, vous connaissez, hein. Bon. Mais contrairement à ce que l'on... Normalement, pour enlever une tache, on y met de l'eau et puis un détergent. Mais l'Évangile nous dit que c'est pas le détergent, eau ou autre produit. C'est du sang qui lave.
Vous avez déjà fait un essai de laver un linge avec du sang? Non, vous l'avez pas. C'est le paradoxe. Parce qu'on ne lave jamais avec du sang. Parce que le sang tâche. Mais ce sang de Jésus qui a été donné, qui a coulé, eh bien, il enlève les taches du cœur et de l'âme des hommes, de leur esprit. Il faut du sang pour laver. Parce que sans le sang, il ne peut pas y avoir de pardon, nous dit l'Écriture sainte. Et ça, c'est le paradoxe de Dieu qui fait trembler les hommes en disant « Mais c'est fou une histoire pareille, on ne lave jamais avec du sang !» Et pourtant, c'est avec ce sang-là qu'on est pardonné et qu'on est sauvé. Alors si vos péchés sont noirs, sont rouges, pardon, peu importe, comme la pourpre, eh bien à ce moment-là, ils deviendront blancs comme la neige. C'est Jésus qui nous donne ça. Le péché, ce n'est pas autre chose que l'esprit mauvais. Oui, comme cela nous est dit dans Éphésiens, par exemple. Mot qui a pour sens habiter et faire sa demeure. Oui. Nous avons besoin de vider l'occupant. Les hommes, le monde entier, a besoin de vider, de chasser l'occupant pour en mettre un autre à la place. Parce qu'il n'y aura pas de cohabitation, il ne pourra pas y avoir de coexistence pacifique entre le bien et le mal, entre ce que nous sommes, nous, imprégnés de ce péché, et puis Jésus. On ne peut pas servir de maître à la fois, vous connaissez, hein, ce que Jésus nous dit. Or, à travers la conversion et la nouvelle naissance dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Dieu et son esprit. Au travers de sa parole que nous entendons, cette parole que nous entendons et que Dieu va nous donner encore la force de comprendre, qui va faire naître et jaillir la foi de notre cœur, parce que c'est par la foi que nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est ce qui lui est agréable. Nous voulons plaire à Dieu, faisons-lui confiance. Demandons que notre foi soit de plus en plus grande. Alors à ce moment-là, Dieu, son esprit, sa parole, eh bien, nous allons l'inviter à venir et à occuper notre âme, notre esprit. Et celui qu'on appelle le vieil homme, vous savez, celui qui est toujours tortueux, celui qui est toujours en train de revenir un peu en arrière, parce qu'il est naturel et instinctif, celui-ci. Vous savez qu'on a du mal, on se bat contre le péché. Hein. Moi, je ne prêche pas un évangile à l'eau de rose en disant, vous savez, quand vous serez converti, quand vous aurez accepté Jésus, vous n'aurez plus aucun souci, plus de problèmes, vous ne serez plus malade, vous verrez, on oubliera même de vous envoyer votre feuille d'imposition. Enfin, je vous le rappelle, c'est bientôt là. Enfin, c'est comme ça, mais je ne voudrais pas vous troubler. Mais toujours est-il que, voilà, ça c'est une utopie. C'est faire rêver, c'est endormir les gens, c'est leur donner un soporifique pour leur dire, eh ben, vous savez, non, c'est pas ça. On reste encore des hommes. Et que notre position, c'est d'avoir accepté Jésus dans notre vie. Mais il y a encore des luttes, il y a encore des combats, il y a encore toutes sortes de choses. Parce que quelquefois, eh bien, nous pouvons être tranquilles. Puis il y a le diable, vous savez, tant que nous serons dans un corps, ce corps d'humiliation, nous aurons encore des combats et des luttes. Je ne voudrais pas vous décourager, mais c'est une lutte. Et c'est ce qui nous reste, c'est ce qui nous donne de garder vivant, autrement on s'endormirait. C'est pas drôle, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pourtant une réalité. L'homme irrégénéré, vous comprenez. Eh bien, nous avions auparavant hébergé celui qui ne devait pas occuper la place dans nos cœurs et dans nos pensées, dans notre vie. Ouais, nous ne devions pas, mais c'est comme ça, c'est tout simplement. Mais nous savons qu'à cause de cette foi dans le sacrifice de Jésus à la croix, c'est ce que nous dit Romains chapitre 6, eh bien, je voudrais simplement vous annoncer une bonne nouvelle, une dernière nouvelle avant que je termine. C'est que si nous prenons cette position, je voudrais dire que le mal, le malin, celui qui est l'instigateur et l'inspirateur, celui qui est le tentateur, celui qui est l'accusateur, parce qu'il nous amène à pécher, après il nous accuse. Et il ricane en disant « Je t'ai bien eu ». Regarde, tu vois, tu viens devant Dieu, mais regarde dans quel état tu es. Tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvais sentiments, tu trimbales encore ta vieille haine dans ton cœur. Tu es encore là quelquefois, eh bien, à tomber dans le piège du mensonge, à tomber dans toutes sortes de travers. Regarde! C'est même plus la peine de revenir à l'église, c'est même pas la peine de lire ta Bible, c'est même pas la peine surtout de prier. Dieu va pas t'entendre, il te juge, il te condamne. C'est lui qui est l'accusateur. Mais cette voix-là, je ne veux pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre parce que quelqu'un a parlé plus fort que lui et lui a dit de se taire. C'est pour ça qu'il nous est dit résister au diable. Il fuira loin de vous. Prenez les armes de l'esprit, le bouclier de la foi. Alors là, il est terrassé. C'est vraiment l'arme dissuasive. Hein. Il ne peut rien faire contre notre foi. C'est vrai, Seigneur, je reviens vers toi. C'est vrai que j'ai péché. C'est vrai que j'ai des mauvaises pensées. C'est vrai que quelquefois j'ai des mauvais sentiments. Il m'arrive de marcher non pas sur la route, mais dans le fossé et à travers champs. Mais Seigneur, je reviens. Je te demande pardon et je sais que tu me pardonnes. J'avais quelqu'un au téléphone dernièrement et qui me disait, mais moi je crois au pardon parce qu'elle était en train de... Elle était dans un désert spirituel et moral. Elle se disait, mais je ne sais plus où j'en suis et tout ça. Je lui dis, est-ce que vous croyez que Dieu vous pardonne? Elle m'a dit oui, oui. Je lui dis, est-ce que vous êtes prêt à vous pardonner vous-même parce que Dieu vous a pardonné? Parce que c'est la conséquence. Elle me dit, c'est plus difficile ça. Eh bien, c'est un acte de foi, tout simplement. Et de revenir vers le Seigneur, à la manière peut-être du fils prodigue. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne, ça c'est sûr, on n'a jamais été digne. Mais le Seigneur va nous sauver, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a élus, parce qu'il nous a appelés, et qu'il va nous donner sa grâce pour aller plus loin. Alors, à travers ce que nous avons vu tout à l'heure, j'ai voulu faire tout simplement un peu d'explication du texte, pas tant le texte, mais des mots, explication des mots, ce que c'est que le péché, la faillite, à travers cet état de guerre qui met les gens en conflit avec eux-mêmes, mais aussi les uns contre les autres, à travers toute cette ruine qui accompagne finalement cet état de choses que l'on appelle le mal, que l'on appelle le péché, mais la solution, le Seigneur nous l'a donnée. Il nous a dit tout simplement que la loi, c'est vrai, elle nous condamne, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce que si nous croyons en lui, eh bien, nous pouvons être à la fois pardonnés, nous pouvons être également sauvés, mais nous pouvons être transformés. Alors on ne se décourage pas. Moi, le message de cet après-midi, on ne se décourage pas. Vous avez des problèmes, vous avez des difficultés dans votre vie, ne vous découragez pas. L'âme lassée et découragée, on regarde vers le Seigneur. Et à travers cette parole, eh bien, nous avons à la fois le diagnostic de la maladie, mais fort heureusement, nous avons aussi par la grâce de Dieu, le remède. Et le remède, c'est un remède parfait. Il ne vient pas de la terre, il vient du ciel. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Oui, Seigneur, lorsque nous parlons des choses, nous devons savoir de quoi nous parlons. Et nous croyons, Seigneur, que les mots qui sont utilisés dans la phraseologie, Seigneur, biblique, à travers ces belles paroles qui nous sont données dans les enseignements de Jésus ou des apôtres, à travers, Seigneur, eh bien, tous ces messages et ces expressions, Seigneur, dans la Bible entière, nous croyons qu'il y a un sens à tout cela. Ce ne sont pas des mots pour dire comme cela, mais ce sont des mots qui désignent véritablement, eh bien, un état, qui désigne en effet des choses réelles. Seigneur, nous voulons croire que le monde essaie de se cacher, se voiler la face, en essayant de minimiser, en essayant de relativiser, Seigneur, la gravité, Seigneur, d'un état qui est un état mortel. Mais Seigneur, le plus beau message que nous pouvons tirer de l'Évangile et que nous avons compris par ta grâce, c'est que le Dieu n'est pas venu perdre des hommes, il est venu pour nous sauver. Et nous sommes des candidats au salut. Nous sommes des candidats à marcher jusqu'à la réalisation de notre salut, bien que nous restions des hommes avec notre fragilité, à travers, Père éternel, toute notre vulnérabilité. Mais nous savons, Seigneur, que nous pouvons toujours conclure d'une manière tout à fait particulière que nous connaissons. Tu nous dis, Seigneur, que véritablement, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs, et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, eh bien, c'est Jésus, qui lui a triomphé du mal et du péché. Et derrière Jésus, avec Jésus, Jésus en nous et nous en lui, eh bien, nous pouvons être aussi des vainqueurs. Merci, mon Sauveur. Donne-moi la foi. Donne-moi plus de foi. Renouvelle ma foi. Ranime ma foi, Seigneur. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que cette disposition, ce sentiment de cœur qu'est la foi, eh bien, en effet, Seigneur, c'est ce qui te plaît. Et nous croyons que ton âme trouve plaisir dans des hommes et des femmes qui ont véritablement cette foi-là, qui ont confiance en toi, qui espèrent en toi. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.